Bonjour à toutes et à tous, clap de fin pour le championnat du monde de vitesse MotoGP 2024 qui a commencé le 10 mars sur le circuit de Losail au Qatar et se termine aujourd'hui sur le circuit de Barcelone en Espagne. Pour en parler avec nous, trois passionnés de sport mécanique que vous devez désormais connaître, Nicolas Poiret.
Salut Amiche.
Nicolas Poiret, Claude, oui, Claude Bonduel et Jean-Pierre Bonduel.
Bonjour.
Dibalou. Messieurs, bonjour. Voilà.
Ouais. Bonjour à tous.
Voilà, donc dernier Grand Prix de la saison, hein, il y a eu des problèmes parce que ça devait se passer à Valence.
Ah oui, mais à Valence, il y a eu un petit peu trop d'eau.
On a vu les vidéos et donc le circuit de Valence n'est plus adapté à faire de la moto.
Les accès au circuit, surtout.
Les accès
surtout
au circuit aussi.
Les accès autour du circuit sont noyés, ouais, dénoyés, ouais, pas mal.
On fait pas la fête sur un circuit alors que tout le monde est...
Catastrophe. Ouais. Le nombre de blessés et de
morts.
Bon, il faut savoir aussi que tout est possible parce qu'il y a encore un suspense en MotoGP. Bien qu'en Moto 3, Moto 2, dans les catégories, c'est fait. Hein, de toute façon, il y a déjà les champions du monde. Voilà. Par contre, on ne sait pas qui sera champion du monde. Alors, il faut préciser que cette émission a été enregistrée hier samedi 16, donc novembre.
15.
Non, 16. Non, 16, Balou. 16,
17, c'est
16, ouais, non, c'est ça, 16. Okay. Et, voilà. Et en fin de matinée, donc on connaît la grille de départ.
Oui.
Alors, on connaît la grille. Malheureusement, on ne pourra pas donner les résultats de la course sprint qui aura lieu à 15h.
Tout à fait.
Qui sera vital pour le championnat.
Oui, alors tout peut se passer hein, parce qu'il y a 24 points d'écart entre l'Espagnol et l'Italien, hein, ouais. Entre Martin et Bagnaia, 24 points. Et tout peut se jouer à cette course sprint qui a eu lieu hier hein, et qu'on ne connaît pas le résultat. Et aussi et donc la course MotoGP qui aura lieu à 14h aujourd'hui, dimanche, donc sur le circuit de Barcelone.
Ouais. Voilà.
Compliqué, hein.
C'est compliqué.
Ouais. Mais c'est un peu comme les revues, hein, Nico, hein, parce que maintenant, comme ce sont des mensuels.
Au mieux,
on a des comptes rendus de Grand Prix un mois après.
Un mois et demi, des fois deux, ça dépend.
C'est défraîchi, on n'a pas la même saveur.
Il n'y a pas la même saveur qu'avant, c'était même pas mensuel.
C'était toutes les semaines. Tous les jeudis. On fonçait chez notre marchand de journaux tous les jeudis. C'est fini.
Voilà, très bien. Oui, on va aussi avoir Jérôme, le président des Éperviers de l'Artois pour la troisième édition du record à battre de la plus grande chaîne de moto qui aura lieu le 30 novembre à Mareuil et aussi la balade Jean-Baptiste du motoclub Évasion hein, pour la balade des Pères Noël qui aura lieu le 8 décembre à Marne-les-Mines. Voilà. C'est le menu du magazine 100% motard du 106,6 de Campus Lille ou www.campuslille.com. On salue notre pilote d'émission Laurent. Et on se retrouve dans quelques instants, juste après, allez, une petite friandise musicale. A tout de suite. We'll be right back.
and she laid a lot of them down. Woman liked long neck bottles and a big head on her beer. Now you got that down, you got that down. Well, I don't like to talk about my women, but I'm gonna do it anyway. Then I'm gonna get right out of town. Well, one night she got to drinking, got out and shot up the town. I'll be damned, she didn't bring an airplane down. I don't like to talk about my women, but this one, sure could, sure enough could chuck them down.
Pour 100 motards, c'est sur Campus 106,6 ou www.campuslille.com. On fait un petit bilan de la saison, enfin de cette année, du championnat 2024, Nico.
Bah oui, parce que si on se souvient de nos espérances en début de saison, on se disait cette année ça va être sympa. Il y a Marquez qui revient sur une moto où il peut gagner. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est vrai qu'on était curieux de voir ce qu'il allait faire sur la Ducati Grosini, ouais. Même si c'était une moto 2023, donc qui avait un an d'écart. Hein. Bah, il a quand même été là. Hein.
On avait beaucoup de doutes hein, pour oui. Sa capacité à pouvoir rebondir,
puisqu'en fait, il sortait vraiment d'années noires. Il n'avait pas touché les podiums et tout ça. Il a quand même eu 3 victoires.
Hein, oui, mais il a surtout abandonné Honda.
Ah oui, bien sûr, bah oui.
Il a rompu son contrat, parce qu'il y avait un contrat Honda encore 2 ans. Mais
il a rompu son contrat pour une équipe satellite et pas la meilleure, sur le papier, celle de son frangin quand même. Ouais. Finalement, il est là, hein, on a vu. Bon, il a eu 3 victoires en GP, une en sprint, 9 podiums.
Oui, mais il a vraiment rebondi très fort, même. Ouais. Il a fait peur aux gens.
Bah oui, et à Aragon, il a impressionné parce qu'il a fait la totale, hein, le sprint et la victoire en GP et la pole. Donc, il est là et il a eu ce qu'il voulait parce que finalement, sa performance lui a...
Il a ouvert les portes de ses deux
concurrents.
Du pénitencier.
Ducati. Et donc, il sera l'année prochaine sur une moto officielle.
Une rouge.
C'est ce qu'il voulait.
Moto
donc, il a réussi son pari en évinçant tout le monde.
Oui, mais justement, Jorge, qui peut être champion, là, on ne sait pas trop.
Oui.
Lui, on dirait qu'on l'a déjà évincé d'avance. Comme on a évincé... Au contraire, vis-à-vis de Bastianini, on a pris Bastianini à la place de Jorge.
Martin. Oui.
Et franchement, je trouve qu'à chaque fois, on le met sur le côté. Je sais pas.
C'est vrai que.
Oui, mais c'est Ducati qui l'avait vincé. Hein.
Tout à fait.
C'est Ducati qui l'avait vincé. Martin, il aurait bien aimé avoir une moto rouge.
Hein. Vous trouvez ça normal?
C'est ce qu'il voulait.
Il est vieux maintenant, Marquez, quand même. Il n'aura pas laissé
le choix, Marquez.
Hein non, mais il a 30 ans, non?
Oui, il approche. Mais Marquez, c'est toujours Marquez. Quand on regarde bien sa façon de doubler et tout ça, et pareil, ça n'a pas changé du tout. Hein.
Et puis, il est
toujours aussi vindicatif au niveau de...
Moi, j'étais surpris que Ducati choisisse Marquez, parce qu'il y a des jeunes aussi qui arrivent, là, qui ont 20 ans et qui ont les dents longues.
Il y avait Martin qui méritait. Hein. Il y avait Martin qui
méritait.
Je pense qu'il y a aussi un problème commercial. Enfin,
ouais, voilà, c'est ça.
Parce que Marquez, ça ramène du monde et ça.
Il doit avoir un truc de pognon quelque part.
Oui, bien sûr.
À mon avis.
Au niveau de l'Espagne, c'est vrai que Marquez a marqué beaucoup de champs. Et je pense qu'il y a des gens qui soutiennent pas mal, même officiellement.
En Espagne, mais en Italie, c'est plus compliqué.
Ah oui, c'est sûr. Mais il se fait plus huer comme il se faisait huer à un moment.
Non.
Parce que franchement, il a montré sa capacité à rebondir et surtout à se transcender, même s'il est très blessé.
Moi, j'ai vu des articles là sur des revues, des interviews de Rossi. Qui lui en veut encore. Hein,
la dent est toujours là.
Ah ouais.
Ah ouais, non, c'est sûr.
En fait, il faut quand même avouer qu'un mec comme Marquez, avec ce qu'il gagnait par an, partir pour gagner beaucoup moins, c'est la gagne qui veut.
C'est vraiment gagner. Tout à fait.
Et puis il y en avait un autre pour lequel on était curieux de voir ce qu'il allait faire, c'était Pedro Acosta.
Petit jeune.
On a vu
le petit rookie, hein,
qui a bluffé tout le monde.
Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé, vous?
C'est une adaptation extraordinaire. Évidemment, surtout au début, là, il a un petit peu marqué le pas après, mais vraiment une adaptation extraordinaire. Tout, on ne le voyait pas à ce niveau-là, quoi.
Ouais. Oui.
On a l'impression qu'il était sur une moto Grand Prix depuis un bout de temps.
Oui, c'est ce que je pensais aussi. On dirait vraiment quelqu'un qui connaît bien. En plus, il y a une façon de conduire autre que beaucoup de gens.
Oui.
Et donc, même en entrant de grand, en entrant de
ouais. Les trajectoires sont pas les mêmes. Ça,
malgré qu'il soit un rookie, il avait de la maturité.
Oui. Ouais.
Hein, et... ouais, je pense qu'il lui faut quand même encore quelques années pour.
Quelques années.
Il a chuté quand même.
On verra l'année prochaine.
Ouais. Mais il a quand même eu un problème de. Quand on regarde ses performances, il a eu un problème parce qu'il est sur une KTM.
Ouais.
Et KTM, c'est compliqué. Hein.
Oui. Oui.
D'ailleurs, en milieu de saison, il faisait plus grand-chose. Ça allait plus. Et il a dit, c'est à cause de KTM. Ils me disent d'essayer plein de trucs. Je peux plus régler ma moto. Il y a trop de trucs à essayer et stop, on arrête de me faire essayer tout et n'importe quoi. Vous ne me faites essayer que quand c'est validé et que ça apporte un plus. Parce qu'au début, il était tout fou, il essayait tout ce qu'on lui demandait, et puis pendant ce temps-là, il fait pas sa session.
Oui, mais il a quand même chuté quand même pas mal. Quand on voit, il forçait beaucoup.
Bah, il forçait beaucoup.
Mais le problème, c'est que la KTM a évolué énormément. Quand on regarde bien tout ce qu'ils ont apporté sur KTM, au niveau tout, même, je voyais, le garde-boue avant, ils ont fait des choses particulières dessus. Avec
Goldorak.
Ouais.
Goldorak. Ouais.
Pourtant, les performances en retrait, KTM, je trouve.
Légèrement,
par rapport à l'année dernière. En fait, je pense que c'est surtout Ducati qui a fait un bon avant.
Ou alors c'est les autres qui
ont fait un bon avant. Oui.
Voilà. Je pense que c'est ça. Hein.
Ouais.
Parce que KTM l'an dernier, d'ailleurs, tous les deux, là, vous voyez l'an dernier, vous pensiez que Binder allait être en haut des feuilles d'étoile.
Ah oui, tout à fait.
Donc, parce que vous voyez que c'était l'équipe qui montait.
Oui, oui.
Et en fait, KTM avait débauché trois top ingénieurs de chez Ducati pour faire évoluer la moto. La moto a beaucoup, très, très bien évolué grâce à ça. Mais là, KTM est en grosse difficulté financière. Elle les a virés, les trois ingénieurs Ducati, et elle reprend des ingénieurs à elle, qui, si on se souvient des débuts de KTM, ça a été très long parce qu'ils ne se remettaient pas en cause. Et donc là, je pense que c'est inquiétant pour KTM à l'avenir, parce que ça va mettre un coup d'arrêt à la bonne tournure que ça avait pris, et parce qu'ils ont des grosses difficultés financières. On n'imagine pas, mais en fait, on se dit KTM, ils vendent pour le motocross, pour l'enduro, pour la route, hein, ils ont une belle gamme. Ben oui, mais ils vont arrêter de bosser pendant 3 mois parce qu'ils ont un stock énorme qu'ils n'arrivent pas à vendre. Dans le monde entier, il y a une récession.
Oui.
Et donc, du coup, ils resserrent la vis un peu partout. Et le MotoGP, ça coûte très cher. Donc, toutes les dépenses qui ne sont pas internes, ils l'ont sorti. Donc, c'est une mauvaise augure pour l'année prochaine. Je pense que ça va être compliqué pour KTM à l'avenir.
Il faut 7,5 millions pour une saison MotoGP.
C'est énorme.
Surtout que
vous vous rendez compte ? Bon, et en plus, il y a la force de frappe Ducati. Il y a 8 pilotes qui donnent des résultats, pour les réglages, ce qui n'est pas le cas des autres. Donc ils ont une force de frappe et de connaissance
énorme,
forcément qu'ils arrivent à évoluer vite.
Et comment on parle d'argent, Balou, c'est impeccable parce que ça vient de toi. Hein, la planète MotoGP ressemble de plus en plus à un show télévisé.
Oui.
T'es en train de nous dire que finalement le sport passe en arrière-plan.
Oui, j'ai arrêté de faire des petits articles sur le forum parce qu'en fait j'étais un peu écœuré par certains trucs, notamment des pilotes qui sont obligés de ralentir pour mettre leurs pneus à température.
Alors ça,
c'est de la folie, c'est quoi. C'est vraiment, on n'est plus dans la course, quoi. On est dans une gestion de course et non plus c'est plus de la vraie course, quoi. Moi ça me choque. Et puis alors c'est vrai qu'au niveau show, ils sont tous dans la mouchoire de poche, mais bon, il faut arrêter les conneries, quoi.
Surtout les courses sprint.
Moi, je pense à Quartararo. Ils avaient l'équipe prévoit que son mec va suivre d'autres, il règle la pression des pneus d'une certaine manière. Manque de bol, le mec qui est devant et son pneu est refroidi, il est pas dans la norme de la
course des pneus. C'est compliqué.
Donc il est puni. Faut arrêter les conneries, quoi.
Alors le problème aussi, c'est avec les appels au niveau des pilotes aussi.
Ah, le transport. Ouais.
Ça, je trouve c'est que ça devrait être interdit. Les appels. Ben, les appels de dire ralenti ou autre.
Ah, sur les informations sur le tableau de bord. Ah oui, mais.
Ben oui, mais je trouve que ça gâche le tout. C'est-à-dire,
c'était mieux dans le temps, quoi. Sur les 500.
Ouais, c'est ça. Bon, au moins, le panneau, il montre.
Ah, t'étais pas noté, oui.
Voilà, pas noté encore à la rigueur, mais le reste.
Non, souvent sur le tableau de bord, ils ont un truc pour leur dire qu'ils doivent se faire un long lap. Ouais. Parce qu'ils ont une pénalité. Ouais. Donc, ça, il faut bien qu'on les prévienne.
Ouais,
et si on perd un tour, parce qu'il faut voir le panneau. Où ils ont loupé le panneau et il faut repartir un tour, ben, du coup, ça a une incidence importante.
Oui,
sur
ou
la course.
Ceux qui s'arrêtent avant la fin du Grand Prix.
Ouais, et après, c'est pour la gestion des pneus, ils aperçoivent que ça ne va pas le faire ou que l'essence, il n'en aura pas assez. Donc, on leur demande de charger de cartographie pour réussir à aller au bout.
C'est ce qui est arrivé Quattraro deux fois.
Deux fois cette année.
Tombé en panne d'essence.
Mais ouais. Le problème, c'est que chaque année, ils baissent d'un litre par Grand Prix. Et donc,
j'ai vu pour l'année prochaine. Ça va encore être c'est pire encore.
Moins encore.
Ouais. 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 Bon, on passe à un morceau de musique.
C'est ça, sûr.
Ouais. 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 Et après, on parlera encore MotoGP, sûrement. Clap de fin du championnat du monde de vitesse aujourd'hui avec nos passionnés de sport mécanique et de vitesse, Nicolas, Claude et Jean-Pierre. On continue donc MotoGP, on pourrait oui. parler des Français aussi, Zarco, Quintero et puis Honda et puis Yamaha. Ouais.
Bah oui, parce que nos Français, c'est quand même les meilleurs pilotes de moto japonaise.
Ouais, c'est vrai, c'est
tout à fait. Ouais.
Et Zarco, le premier, hein, ouais. premier pilote Honda.
Premier pilote Honda et
Quintero, premier pilote Yamaha.
Oui.
Pour l'instant, c'est le seul qui fait bien marcher la Honda. Ces derniers Grands Prix, à chaque fois,
mieux que Marquez.
Marquez,
lui, il la faisait marcher plutôt à l'envers, tu vois. Jardiner.
Il a essayé, mais.
Il n'y croyait plus.
Alors que, là, et apparemment, Zarco, lui, c'est un metteur au point, il sait, à mon avis, aller chercher les modifs Zarco, pour améliorer les performances.
C'est un pragmatique. Donc, il a une équipe sous lui, donc il donne des directives. Comme c'est le premier pilote. Ça marche, puisque on lui obéit.
Zarco s'est voilà, trouvé un challenge.
Petite touche par petite touche, je pense qu'il avance.
Et l'année prochaine, ça va être le plus vieux pilote du paddock.
C'est possible.
C'est quelqu'un qui...
Spargaro, il se barre et c'était le plus vieux.
Parce que Zarco, en fait, il lâche rien. Et il expliquait, il dit, j'essaie de trouver des points forts à la moto. Et après, en fonction des points forts de la moto, j'adapte mon pilotage pour pouvoir en profiter. Donc là, il dit, notre point faible, c'est la sortie de virage. Par contre, en entrée, on est pas mal. Donc, je soigne mes entrées de virage. Et après, ils ont eu un nouveau carénage en milieu de saison qui a bien amélioré les choses. Ça semble idiot, hein, un peu de carénage qui va modifier suffisamment la moto pour qu'elle puisse gagner quelques places. Ouais. Mais ça donne de la confiance et donc le pilotage est meilleur parce qu'il a retrouvé une confiance en l'avant. Et on a besoin d'énormément de feeling pour un pilote.
C'est surtout le seul pilote qui est comme ça pour l'instant. Je suis Honda.
Voilà. Donc, Zarco, chapeau. Hein. En sprint, quand il a été qualifié, il a dit c'est presque une victoire et tout ça. Mmh. Et c'est vrai que quand on sait d'où vient Honda aussi loin derrière, et réussir ce qu'il fait, c'est un petit exploit. Hein. Ouais, c'est pas rien. Surtout avec une équipe satellite sympathique, hein, parce que c'est Cecchinello. C'est à l'italienne, donc c'est sympa. Il y a de l'humanité dedans. Ouais, hein. C'est pas que des
machines. On le ressent bien. Ouais.
Et donc c'est sympa. Et puis c'est vrai, Quartararo aussi. Hein. Alors Quartararo, moi je comprends pas trop. Il passerait l'année prochaine sur un 4 cylindres en V.
Oui.
Ouais.
Hein
ouais.
Mais à quoi ça rime? Parce qu'il reste plus que 2 ans.
Ça repasse à 8,50.
En 2027, on a 8,50.
Ouais, en 8,50.
Donc ils vont développer un moteur pour 2 ans. Le temps qu'il soit au point, ça sera déjà fini.
Alors c'est peut-être un moteur justement qui peut être modifié très facilement.
Oui, pour qu'il devienne le 850.
Un 850,
c'est possible peut-être. Aussi, on ne sait pas. C'est des gens quand même compétents. Donc,
ils sont compétents, mais leur moto a du mal. Hein,
C'est le seul 4 cylindres encore tel que.
Oui, mais Suzuki, ça marchait très bien avec un 4 cylindres. Honda a un V4 et ça ne marche pas. Donc je ne vois pas pourquoi un V4 ça va tout changer. Hein. C'est peut-être pas ça le problème. Hein.
C'est
une adaptation au futur challenge.
Donc, moi je suis dubitatif. Je me dis, c'est beaucoup d'argent pour développer un moteur.
C'est clair.
Donc, effectivement, peut-être qu'ils pensent
au 850.
Au 850 quand ils développent. Un 850 réalisé.
Peut-être.
Ouais.
En le diminuant.
Pourquoi pas.
Peut-être jouer sur les deux tableaux. C'est possible aussi.
Et aussi, pour revenir sur la bagarre finale entre Banaya et Martine, j'ai quand même. Je me suis interrogé parce que sur le papier, quand on regarde, donc on est à l'aube du dernier Grand Prix, il y avait 24 points qui les séparent. Mais il y a eu quand même 10 victoires en GP pour Pecco et seulement 2 victoires pour Jorge. Hein, ils ont fait 15 podiums chacun. Mais quand on regarde le nombre de victoires, ça ne tient pas sur le papier. Alors comment il a fait Jorge pour être devant Pecco? J'ai regardé, donc je me suis dit c'est les courses sprint. Alors j'ai regardé l'impact des courses sprint.
Oui.
Et ça rapporte que 12 points une course sprint contre 25 un GP, donc normalement l'impact il est moins fort.
Ouais.
Et Martin il a remporté 7 sprints et Banaya 6, donc c'est toujours pas très significatif parce que vu qu'il y a eu 12 grands prix. Enfin, c'est la différence en grands prix, 10 victoires et pour 2 pour Jorge en grand prix. Et puis là, bon, c'est presque que... pareil en match. Donc j'ai regardé en approfondissant.
Oui.
Et en fait, Martin, il n'a pas marqué de points en sprint seulement 2 fois. Tandis que Bagnaia, il n'a pas marqué de points, il est tombé 5 fois.
Et Martin, ouais. il a été 13 fois deuxième, alors que Bagnaia a été que 2 fois deuxième.
Oui, mais t'es 10 fois premier. Hein.
Oui, oui, je sais. Ouais.
Mais donc, deuxième, c'est pas mal. 20 points, c'est pas mal quand même.
Oui, mais ça fait 5 de moins que le premier. Ouais, hein, ouais. Et donc, il a perdu 8 fois 5 points par rapport à Pecco, et pourtant, il est devant. Donc, en fait, le problème de Bagnaia, c'était les sprints, mais c'était pas les sprints parce qu'il avançait pas. C'était les sprints parce qu'il s'est foutu par terre.
Oui.
Et il s'est foutu par terre en sprint.
Ouais.
Et c'est ça qui fait la différence. Plus la bien meilleure régularité de Martin, qui sait quand même, qui est moins impulsif, hein, qui est plus réfléchi, et qui est par rapport à l'année dernière où il s'était tout marche ou crève.
Il sait ce qu'on t'attend au moment où il est.
Voilà, il sait raisonner. Et c'est ce qui fait qu'il est devant. Mais quand on regarde sur le nombre de victoires, c'est stupéfiant.
Oui.
10 victoires contre 2, hein, il est devant. Je cherche à comprendre, je me suis dit, c'est où, il y a un truc. Et en fait, c'est Bagnaia qui tombait beaucoup en sprint.
Oui, ouais.
Donc voilà. Donc là,
Bagnaia, il prend quelque chose. Hein, il prend des cachets, non? vous trouvez pas qu'il est hyper cool?
Il est zen.
Il est zen. C'est pas possible.
T'as raison, Amish. Il faut.
Moi, je trouve que par rapport à Martin, c'est l'inverse. Il tient pas là, peut-être.
Il a toujours été un peu la
pression. Mais Bagnaia.
C'est vrai qu'il faut saluer le fait que.
Le flegme.
Entre eux, il y a quand même un bon respect cette année.
Oui, bon respect, oui.
On n'a pas connu ça depuis longtemps. Ils se connaissent depuis qu'ils sont gamins. Hein. Ils ont roulé ensemble et tout ça.
Dans les courses.
Donc, c'est des copains à 14 ans, ils étaient déjà sur les pistes ensemble à se taper sur l'épaule et en bagarre.
C'est ça, tout
donc,
à fait.
Donc, forcément. Ils se connaissent par cœur, hein, c'est comme leur frère en fait, hein. Mmh. Même s'il n'y a pas de rapport plus que ça, ils se connaissent, ils voient, au moindre geste, ils savent exactement ce que l'autre pense, ce que l'autre va faire.
En moto Grand Prix, c'est Bagnaia qui a commencé le premier dans la course moto Grand Prix, hein. Après l'autre était venu l'année suivante, donc c'est sûr qu'il y avait un an de retard, on va dire.
Ouais. Ouais, voilà.
Autrement, le reste, c'est pareil. Ouais. Ils ont évolué.
Maintenant, ils n'ont peut-être plus le droit de s'engueuler non plus au niveau du show. Il faut
c'est ça le show.
Il faut quand même qu'ils aient tous l'air très sympathiques.
Il faut montrer que, tout va bien. Quoi. Voilà.
Ouais.
Tiens, pour changer un peu, vous savez que Rossi, il va de papa aussi, pour la deuxième fois.
Ah bon, d'accord.
Ouais, pour ceux qui avaient des doutes, quoi.
C'est marrant. Voilà.
C'est une fille. Et là, il est un peu déçu quand même. Il se dit, j'aurais bien aimé avoir un garçon. Quand même.
C'est marrant, les anciens pilotes, ils réagissent beaucoup sur le championnat. Ils s'investissent beaucoup. Rossi, il est bien investi avec Pecco.
Oui.
Et là, en Australie, on a vu plusieurs fois dans l'année aussi Stoner qui revenait.
Oui, tout à fait.
Et c'était intéressant. Il a réagi sur l'évolution des motos GP. Alors lui, il est assez radical. Hein. Il a dit, les motos, elles sont trop faciles. La seule façon de doubler. Sauf erreur de trajectoire du gars devant, c'est au freinage. Et le freinage, il dit, c'est devenu dingue. Les mecs, ils prennent 2,5G. Hein. Donc en fait, une MotoGP, il disait, elle freine pour aller de 320 à 200, donc pour perdre 120 km/h, elle met 2 secondes au freinage. Par contre, pour les gagner à l'accélération, il faut 5 secondes. Donc ça freine plus que deux fois plus vite que ça accélère.
Il y a beaucoup de problèmes de bras maintenant.
Exactement. Donc il disait, par exemple, Yannone, il a roulé un petit peu, il a fait un remplacement. Là, et il disait, il n'a pas tenu physiquement. Mmh. Et parce que les motos sont devenues beaucoup plus physiques à cause de ça. Parce que maintenant, le freinage, c'est déterminant, en fait. Mmh. Et le freinage, ça freine tellement fort que quand tu te prends, il disait, avec... et puis même le levier, il faut prendre 8 kilos. Je sais plus combien, 160 fois dans le Grand Prix avec deux doigts.
Avec deux doigts, ouais, c'est ça.
Lève 8 kilos pendant 165 fois. Tu
c'est pour ça qu'ils ont les gros doigts. Hein.
Non mais c'est fou. Hein.
Ouais.
Et puis alors, Tonnerre, il dit aussi que c'est une connerie le sprint. Parce qu'on ne travaille plus sur les motos. Dès le vendredi matin, les pilotes, même en session libre, ils n'ont qu'une exception, c'est le Q2 de l'après-midi. Mmh. Donc, il dit que les ailerons, c'est, ça perturbe le pilotage, ça génère des turbulences et du coup ça donne un avantage au pilote qui est en tête. C'est beaucoup plus dur de doubler. Il dit que l'électronique c'est des gadgets et que
il a toujours dit ça. Il était contre.
Non mais parce que par exemple le démarrage.
Moi j'ai une idée. On en revient au 500, ça sent deux temps. Les... Ouais,
mais par exemple le démarrage. Il y avait des pilotes qui savaient, qui étaient bons pour prendre le départ. D'autres moins bons. Hein, par exemple Saron, on se souvient, à l'époque il y avait du mal. Hein,
bah, il y avait des pilotes très bons, moins costauds. Surtout.
Et là ils sont tous bons.
Et là ils ont une aide pour le faire. Mais il dit savoir redémarrer, c'était l'art du pilotage.
Bien sûr.
Pourquoi on enlève ça. Donc il trouve que l'électronique, elle est là où elle devrait pas. Si elle est là pour la sécurité, empêcher l'outside, ok. Mais si c'est pour
gagner du temps,
améliorer un mauvais démarreur, un mec qui sait pas bien prendre les départs, ben c'est pas très. Ça enlève de l'art du pilotage. On enlève de l'humain, on met de la machine à la place. Il a pas tout à fait tort. Hein, moi,
d'ailleurs, quand ça marche pas. Quand ça marche pas, regarde quand Marquez y a démarré, qu'il y avait son protecteur d'écran juste sous le pneu.
Oui.
Ah oui. Vu que oh punaise, oui. Ça.
C'est incroyable ça.
Ah ouais.
Il enlève son.
Oui. Et son écran.
Le
pneu.
Il a fait un burn. Bon. Et puis et dernier truc sur les règles des pénalités là. C'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure. Ça va pas cette histoire de pression de pneus, hein, parce qu'effectivement.
Nico, si on pouvait imaginer que finalement on laisserait libre pour tout le monde la pression de pneus, chacun fait ce qu'il veut,
oui,
à la limite.
Ça pourrait être.
On remet tout le monde à égalité.
C'était comme ça avant.
Pourquoi
mettre une
contrainte ? Il y a eu quand même d'autres éclatements qui étaient à haute vitesse, et en fait, je crois que le fabricant de pneus, il veut pas non plus prendre le risque.
On n'a pas le droit d'être sous-gonflé pendant la moitié du Grand Prix. C'est ça la règle. Elle a l'air simple, mais elle est inapplicable parce que en fonction de la température du circuit,
si tu suis un pilote, si tu suis un concurrent qui est devant,
ça change tout. Ça n'a pas de sens. Pourquoi il dirait pas pour tel circuit avec telle température, il faut prendre on prend avant de partir. Avant de partir, on met la pression qu'il faut.
Voilà.
Pourquoi on pourrait pas faire ça ?
Moi, je pense que ce serait une bonne idée. Parce qu'effectivement, je trouve que c'est pour un pilote, c'est pas facile à gérer, la pression des pneus. Quand tu es à 360 km/h.
Une pression minimale obligatoire sur la grille de départ, décidée par Michelin en fonction des conditions de température, de piste. Et puis voilà.
Puis surtout, il y a eu des gens, on a carrément retiré la victoire à cause de ça.
Il y a des pénalités énormes. Je me souviens, il y a eu Miller, il y a eu Fernandez, il y a eu qui ont été pénalités. Puis alors, c'est des pénalités de 16 secondes, ça fait mal, c'est énorme.
Tu te retrouves dixième. Moi, je propose de passer un morceau de musique. Après, on va retrouver Jérôme, le président des Éperviers de l'Artois, tout de suite après le morceau de musique. Là, au téléphone, nous avons Jean-Baptiste du motoclub Évasion. Jean-Baptiste, bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour. Le motoclub Évasion organise la troisième édition des balades des Pères Noël.
Oui, c'est ça, ouais.
Le 8 décembre.
Le 8 décembre à Marles-les-Mines.
À Marles-les-Mines.
Ouais, en hommage, en même temps, cette année, au maire Éric Édouard qui est décédé il y a un an. Donc, on va lui rendre hommage aussi le jour de la balade.
D'accord. Donc, raconte-nous, dis-nous un peu comment ça va se dérouler. Et c'est la troisième édition, déjà ?
C'est la troisième édition. On suit le marché intercommunal qui se passe entre Calonne, Divion et Marles-les-Mines. Et puis, on va suivre tout au long de l'année les manifestations de l'un et de l'autre. Mais nous, cette année, on va partir plus sur la balade des Pères Noël en hommage à Éric Édouard.
D'accord. Comment ça s'est déroulé les deux autres éditions là ? Il y avait combien de participants ?
Alors, on avait 250 participants à la balade, 250 motos, donc un peu plus de 400 personnes présentes sur la balade de l'année dernière.
D'accord. Et donc, le rendez-vous, c'est où ?
Donc, le rendez-vous, c'est place Roger Salengro à Marles-les-Mines, à 14h30 pour le départ.
D'accord, très bien. Et donc, c'est un circuit de 50 km, sécurisé hein, aussi ?
Bien sûr. Sous l'accord de la sous-préfecture, bien sûr. 50 km qui va reprendre les petits villages, qui va reprendre de la ville, la campagne. On a essayé d'allier notre parcours pour allier tous les horizons. La fin du parcours va se terminer sur Marles-les-Mines, bien sûr. Et petit aparté, on passera devant la MAPA de Marles-les-Mines pour rendre hommage aux personnes âgées en même temps.
Alors, on espère qu'il n'y aura pas de neige, hein, parce que la première édition, tu m'as dit qu'elle s'était déroulée sous la neige.
Ouais, c'est ça. La première édition, on était sur une centaine de motards. Et jusqu'au dernier moment, on a maintenu et on l'a fait sous la neige.
C'est normal pour le Père Noël.
Remarque, oui, c'est normal. En fait, pour
le Père Noël, c'est le vrai ou le faux ?
ils sont tous sur les motos, parce qu'on souhaite quand même que... On souhaite quand même que les motards soient habillés en Père Noël.
Ah ouais, il faut la tenue de Père Noël. Alors souhaiter, hein, c'est pas obligatoire. Ouais, hein.
Non, c'est pas obligatoire, mais on la souhaite. C'est pour le plaisir des grands et surtout les plus petits.
Et des petits, quoi. Ouais. Et donc, on participe, il y a un tarif ?
Non, du tout.
Non. Donc tout est gratuit. Et on ramène un cadeau ? Comment il y a quelque chose qui est prévu ?
Pas du tout. Non, c'est vraiment une balade libre. Oui. Encadré, sécurisé, en plus du marché de Noël intercommunal.
D'accord. Et le motoclub Évasion, il y a combien d'adhérents ?
On est une petite vingtaine.
D'accord. Vous faites quoi durant l'année ?
Petit club familial. On organise souvent une soirée année 80 en octobre, la balade des Pères Noël. On est en train de mettre en place une fête de la moto sur Calonne-Ricoire pour 2025. On est en train de confirmer les dates. Et puis, on soutient aussi des adhérents qui font motocross.
Ah oui.
Les championnats et dont l'enduro du Touquet.
Ah d'accord. Très bien.
Bon, et ça, il faut s'inscrire pour la balade du Père Noël ? Ou bien on vient comme ça ?
Non, pas d'inscription. Directement sur place.
Donc, ce rendez-vous à quelle heure ?
Non, c'est 14h30 le départ.
Départ 14h30 à partir de 14h.
D'accord.
D'être sur place. Okay.
On vient, il y a un document à remplir ou non ? On vient comme ça avec sa moto et puis on se met dans le. En Père Noël, oui, surtout en Père Noël.
En Père Noël. Voilà. On fait un petit briefing avant de partir par mesure de sécurité.
Oui.
Pour bien rater les contrôles, puisque on les encadre, donc on se permet aussi d'avoir toute autorité sur chacun d'entre eux. On veut pas de rodéo, rien du tout.
Voilà. Donc ça va. Oui, il faut faire attention. Oui. Il faut, alors donc c'est à Marne-les-Mines, hein, c'est ça?
Marne-les-Mines, oui.
Et donc c'est sur la Grand Place. Il y a un endroit bien spécifique où il faut se rendre.
C'est sur la Grand Place, ouais, la place Salengro, c'est la place de l'Hôtel de Ville où il y aura le marché de Noël.
Là, c'est Roger Salengro.
Ouais, c'est ça.
Voilà, très bien.
Et nous, on sera juste au-dessus du marché de Noël. On a une partie réservée par la municipalité afin de pouvoir donner le départ.
Très bien.
Départ qui sera fait certainement par l'épouse du maire pour lui rendre honneur.
D'accord. Donc voilà, on rappelle, hein, dimanche 8 décembre, hein, départ 14h, donc circuit de 50 km, sécurisé, c'est gratuit, et tenue de Père Noël souhaitée.
Oui, alors il y a un truc quand même, c'est la barbe passe bien avec le casque, mais alors la perruque, c'est pas le pire.
La perruque, non, c'est au-dessus du casque, voilà.
Ça existe, ouais, il existe, oui, ça existe. Des bonnets pour les casques.
Voilà.
Un bonnet au-dessus.
Écoute, Jean-Baptiste, on a tout dit là?
Oui, on a tout dit, ouais.
Voilà. Et on a tout dit raison, hein, dans c'est le bon. Voilà.
On a tout dit raison.
Ouais, c'est ce qu'on dit, hein, voilà. Et ben écoute, voilà, nous on sera là peut-être donc dimanche 8 décembre, donc pour la balade des Pères Noël.
Voilà. Ben avec plaisir.
Merci bien, bon dimanche Jean-Baptiste.
Merci
bon
à
dimanche.
Vous. Merci également. Au revoir.
Au revoir. Bon, on reste sur le MotoGP. Oui. Oh, Balou.
Ouais, ouais.
Qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine, 2025?
Qui va arriver aussi en MotoGP?
Ouais, il faut déjà parler aussi de ce qui va arriver cette année. En gros, il faut rappeler aux gens qu'il y a très très peu de poids d'écart entre Martin et Bagnaia. Pareil pour entre Marquez et Bastianini, oui. il y a
un point
d'écart.
Un point différent.
Et pareil entre Acosta et Binder, il y a 3 points d'écart. Et encore, il y a Vinales qui a 7 points derrière. Donc vraiment, les résultats de ce week-end vont être très importants. Maintenant, on peut passer.
Donc, je rappelle que cette émission a été enregistrée hier samedi et donc en fin de matinée. Et on ne connaît pas le résultat de la course sprint parce que s'il se passe des choses, ça va modifier tous ces classements. Hein.
Il y en a un qui peut être champion du monde.
Et puis tout à l'heure, à 14h, c'est le Grand Prix, donc à Barcelone et pas à Valence, hein, parce qu'à cause des intempéries.
Inondations.
Et par contre, mardi après le GP, donc les pilotes vont découvrir leur moto de l'an prochain. Ouais. Et cette année, c'est le grand chamboule tout. Il y a 12 pilotes qui changent de moto. C'est fou. On se souvient que Bagnaia, il avait re-signé vite fait pour Ducati, hein, plus vite que Lucky Luke. Hein. Ouais. Quartararo aussi, il avait vite renouvelé pour Yamaha. Étonnamment, parce qu'on se disait, est-ce que c'est vraiment un bon plan, hein, quand on a vu Marquez et tout ça, mais bon. Et puis Acosta aussi. Acosta, là, ils l'ont ferré, ils ne veulent pas le lâcher.
Ouais, ils l'ont pas lâché.
Et puis après, ça a été la foire d'empoigne, hein, parce qu'il y a 18 des 22 pilotes qui étaient en fin de contrat. Et donc là, il y a 12 pilotes qui changent de moto. Donc,
Chaises médicales.
Et puis il y a aussi des équipes qui changent de moto, puisque Pramac qui était chez Ducati. Maintenant, ce sera l'équipe B de Yamaha.
Il y aura 4 Yamaha, alors qu'il y en avait que 2.
Voilà. Et d'ailleurs, il y a un truc assez bizarre dans l'histoire. Est-ce que vous savez quel constructeur aura le moins de motos d'usine l'année prochaine?
Le moins?
Oui, le moins. Le moins de motos d'usine.
Ducati, il va y en avoir 2 de moins.
T'as raison, l'ami, c'est Ducati. Il n'y aura que 3 Ducati GP25.
Ah oui, d'accord. Okay. D'accord. En moto d'usine, oui, d'accord.
Ouais, okay. Ouais. Il n'y aura que 3 Ducati GP25. Il y aura Bagnaia et Marquez. Et puis, il va en avoir une pour Fabio Di Antonio. D'accord. Et Morbidelli va être sur la moto de l'an dernier. Alex Marquez et Aldeguer, parce qu'Aldeguer, il arrive chez Grazini. Il aura aussi une Ducati 2024. Donc il n'y aura que 3 Ducati 2025, alors que dans les autres équipes, Yamaha, Honda et tout ça, ils en auront 4.
Pramac passe avec Yamaha.
Ouais, voilà. Donc ça va faire 4 Yamaha. Ouais. Elles seront toutes 2025.
2025,
d'accord. Ouais, d'accord. Honda pareil.
Honda pareil.
Et Aprilia pareil.
Voilà. Donc,
c'est une info qui n'est pas négligeable.
Bah oui, c'est étonnant. Donc voilà.
Et puis il y a des nouveaux pilotes qui arrivent.
Il y a des nouveaux pilotes qui arrivent. Ouais.
Ayagura, champion Moto 2.
Il arrive chez l'équipe B de Aprilia. Trackhouse Racing, ça s'appelle.
Oui. Hein, oui.
Avec Raoul Fernandez, il sera.
Raoul Fernandez.
Ouais, voilà.
Il y a aussi Chantra qui est arrivé aussi.
Oui, c'est vrai.
Alors Chantra. Chantra, ça va être.
Je ne sais pas, par contre, le.
Où il a atterri
la moto qui va atterrir, je ne sais pas. Mais
c'est sur la Honda LCR. En fait, LCR. Il va remplacer le Nakanami.
Oui. Normalement, on pensait que ça allait être Ogura, mais non.
Il part ailleurs.
Un Asiatique pour remplacer un Asiatique.
Qu'est-ce que vous pensez, là, en moto, en Superbike, hein, c'est encore le Turc, la Topro, là, qui a remporté le championnat du monde, Superbike.
Superbe.
Et on se demande comment ça se fait qu'il a pas le... On ne le voit pas en MotoGP parce que ça a l'air d'être un sacré pilote.
On a proposé, mais pour l'instant, il a...
C'est vrai qu'il a fait un test qui n'était pas...
Il n'y a aucun pont entre le Superbike et le MotoGP. En fait, si tu veux faire du MotoGP, il faut avoir fait du Moto2. Mais si t'es super bon en Superbike, t'arrives jamais en... Dans le temps, ça se faisait.
Ouais. Au contraire, l'inversement, non.
C'est vrai, Cruchot, par exemple.
Oui.
Bon, là, ça, c'est pour 2025, mais 2027, alors là, c'est le grand chamboulement, là.
Ah oui, 2027, on change de moteur.
Vous pensez changement de moteur, il a changé aussi.
Alors, on va revenir à 8-5 ans. Alors, il y a eu les 500, hein, à l'époque.
Peut-être l'arrivée de BM. Et peut-être même avec Toprak, on ne sait jamais.
Tu crois?
On ne sait jamais.
Alors, il y a eu des 900, il y a eu des 800, on est repassé à 1000. Ouais. Et donc, en 2027, on repasse à 850.
Voilà.
Ouais.
Alors, soi-disant, pour diminuer la vitesse de pointe.
Ouais,
la vitesse, alors que.
Non, je sais pas.
À part ça, il faut faire des économies.
Et faire des économies. Il y a aussi au niveau de l'essence aussi, ce sera l'essence écolo,
ouais.
soi-disant.
Oui. Ouais.
Ouais. Vous n'avez pas l'air très convaincu quand même.
Synthétique.
Synthétique.
C'est ce qu'ils nous disent.
Ouais. Voilà. Et donc, il y a les carburants, l'aérodynamisme, alors, ce sera.
Il y aura moins d'aéro.
Ce sera réduit.
Ouais. Ouais. Ils vont réduire l'aéro. Bah, il est temps. Ouais. Parce que
il est temps.
N'importe c'est quoi. Clair. Ouais. Ça ressemble plus à des motos.
Non.
Alors, les systèmes de démarrage, les all-shot device, apparemment, ce sera interdit.
Ah, ça c'est bien.
Ça, ça veut dire que les démarrages, tout le monde sera à la même.
Non, mais c'est normal. C'est
pilote au même niveau, quoi.
C'est le pilote de faire le boulot. Hein. Même, c'est pas électronique, c'est le pilote de faire le boulot, c'est normal.
Ouais.
Tout
à fait.
Bah oui,
c'est vrai.
Et puis aussi, il y a les données GPS qui seront échangées avec les pilotes pour avoir.
Pour
connaître, ouais, voilà, connaître un peu le.
La trajectoire.
Ouais, la trajectoire, voilà. Non, tu penses pas que.
En fait, les données GPS, il y en était question un moment, et parce qu'en fait, si tu veux, on pourrait, par ça, changer la cartographie pour chaque virage. Faire une cartographie qui va bien pour chaque virage. On sait où est la moto, donc la moto, elle modifierait sa cartographie pour avoir le meilleur couple pour chaque virage.
Pour sortir du virage, ça devient une usine à gaz.
Il faut mettre un robot intelligence artificielle sur la moto.
Oui, c'est ça qu'il faut faire.
Ça devient fou. Hein.
Ça devient fou. Ouais.
Ah ouais. Ouais.
Bon, écoutez, moi je propose de passer un morceau de musique et puis on va avoir cette fois-ci, c'est sûr, Jérôme, le président des éperviers de l'Artois. Ah, juste après le morceau de musique.
Vivement Jérôme.
Ouais. Voilà, au téléphone, nous avons Jérôme, le président des Éperviers de l'Artois. Jérôme, bonjour.
Oui, bonjour.
Voilà, donc, record à battre, 215 mètres, donc le 30 novembre à Mareuil.
Oui, tout à fait. Donc, c'est un record à battre de 215 mètres linéaires de moto.
Voilà.
Pour remettre le plus grand défi pour le Téléthon.
C'est pour le Téléthon, effectivement. Donc, comment ça marche? Vous mettez les motos les unes après les autres, comme ça, vous alignez en longueur?
Oui, voilà. Donc, en fait, on aligne toutes les motos roue à roue en longueur. Et après, avant de partir pour la balade de 50 km, on mesure le nombre linéaire de motos que nous avons.
Il y a un huissier qui contrôle la longueur, non? C'est officiel, non?
Mais on a quand même un responsable attitré, nous, dans le motoclub, qui va vraiment suivre ça, qui me mesure, oui.
Ça doit pas être facile, parce que les motards, ils sont pas disciplinés pour aligner les motos comme ça.
En fait, on met une petite équipe en place du motoclub pour vraiment discipliner le motard, pour qu'il puisse mettre sa roue contre la roue de la personne devant.
Bon, alors, c'est la troisième édition également.
Oui, voilà. Donc, en fait, c'est la troisième édition. C'est un challenge que j'ai voulu relancer parce que quand j'ai commencé dans le monde de la moto, il y a une quinzaine d'années, ça se faisait sur Hénin Beaumont. Et après, bon, j'ai recherché. J'ai jamais retrouvé un défi moto. Donc, j'ai dit, allez, pourquoi pas le relancer avec le motoclub de Mareuil.
Voilà. Donc, c'est 3 euros, hein, je crois. C'est 3 euros par casque. Hein.
Voilà, c'est tout
ça.
À fait.
Et, ce sera reversé au Téléthon.
Voilà. Les 3 euros complètement seront reversés au Téléthon. Et nous faisons un départ de notre partenaire Moto Valley. Et le jour-là, le pilote, quand il s'inscrit des 3 euros, il a 15% dans le magasin Maxess.
Ah bon? D'accord, très bien. Et alors oui, après le défi, donc c'est 14h45.
On départ à inscription à partir de 14h.
Ah, c'est la mise en place du défi, c'est-à-dire que là, vous alignez les motos, hein, c'est ça.
Voilà. Voilà, donc mise en place du défi, c'est 14h45 et 15h départ pour 50 km.
D'accord, ça fait combien de participants, ça, 215 mètres?
Bah écoutez, il y a deux ans qu'on l'a mis, parce que l'an dernier, malheureusement, avec les conditions météo, j'ai dû annuler parce qu'il y avait de la tempête, il y avait de la pluie, donc on est fort sécurité, j'ai préféré pour jouer sécurité. Et il y a deux ans, les 215 mètres, on était à 110 motos.
Alors, imaginez que vous avez 500 ou 600 motos, comment vous allez faire là?
Eh ben, on va gérer. Parce qu'en fait, voilà, on a les copains des motoclubs alentours qui viennent nous donner un coup de main pour la sécurité. Les déclarations en préfecture sont faites. Donc, ça nous fait pas peur. On a déjà fait des balades avec 600 motos, donc ça nous fait vraiment pas peur.
Il y a Claude qui est sur le plateau radio ici qui fait ici. C'est une boucle? Vous alignez en longueur ou c'est un cercle ou c'est une boucle?
C'est vraiment, on aligne toutes les motos. On a un grand parking où on peut aligner toutes les motos.
Ah, oui,
donc, on mettra sur deux rangées.
Vous faites des rangées en fait.
Mais souvent on fait que deux rangées, on arrive à mettre pas mal de motos.
Il faut coller le pneu, la roue avant à la roue arrière, c'est ça? Il faut bien faire attention.
Voilà, donc
faut pas laisser
la roue avant collée à la personne de devant, à la roue arrière.
Voilà, alors après il y a une balade hein, aussi de 50 km.
C'est ça, donc après on s'en va pour 50 km dans la rageoie, donc voilà, des petites routes de campagne bien, bien sinueuses pour que le motard se fasse plaisir tout au long, et il sera sécurisé par toutes les motos, sécurité, les petits poussins qui seront là pour sécuriser le parcours.
D'accord, et donc arrivé à Mareuil, retour de la balade 17h.
Voilà, autour de 17h, où là, il y aura de la restauration et il y a pas mal d'animations dans la salle des fêtes. Donc en fait, on en profite pour arriver là, c'est notre siège social et en fait... pour passer un petit moment autour d'un petit café, parce que je pense que les températures fin novembre ne sont pas non plus...
Il pourrait neiger, hein.
Oui. Et il pourrait neiger. J'espère pas, hein, parce que là, si c'est de la neige, malheureusement, je devrais annuler.
Voilà, bah écoute, qu'est-ce qu'on peut rajouter des choses?
Non, c'est que c'est un défi que je relance et j'espère vraiment attirer pas mal de motards. Je me souviens, il y a deux ans, on a eu vraiment du monde, plus de 100 motos, alors qu'il faisait moins 5. Donc, il faisait vraiment très froid. Je me dis, si les températures sont correctes, je pense qu'on peut monter à 200, 250 motos. Et ça me ferait super plaisir parce que tout l'argent est reversé vraiment au Téléthon. Et je pense qu'ils en ont vraiment besoin, le Téléthon.
Très bien. Combien de membres au motoclub?
Alors, au motoclub, on est une centaine d'adhérents.
Ah oui, quand même.
Ouais.
Et vous avez un calendrier? Qu'est-ce que vous faites durant l'année?
Durant l'année, donc, on fait notre grande balade annuelle, notre rassemblement moto. Donc, c'est fin avril. Où on attire, on fait vraiment un petit salon de la moto, hein, où on attire, on fait une balade également, où on attire entre 300 et 500 motos, on fait un parcours quad également, on fait un parcours moto tout terrain, et on a un petit 1000 personnes sur le site sur la journée.
D'accord.
Et après, pour mes adhérents, tous les week-ends, on fait des petites sorties annuelles, on fait des petites balades qui vont bien pour tous nos membres.
D'accord, très bien, merci Jérôme. Bien, écoute, est-ce qu'il y a un mail, enfin un site où...
Oui, alors c'est juste le Facebook, c'est MCEA Motoclub des Éperviers de l'Artois.
Très bien, ben on rappelle un troisième. Voilà, oui.
Et après mon numéro de téléphone pour tout renseignement.
D'accord. Donc troisième édition, un record à battre, hein, 215 mètres. Hein. Si on fait 220 mètres, ce serait bien.
Voilà. Voilà. Eh ben, et voilà. Même plus. Et j'espère que le 30, on pourra le relever ce défi.
Voilà, très bien. Mais écoute, merci d'avoir répondu à nos questions, Jérôme.
Eh ben, merci beaucoup à vous pour votre appel.
Et bon dimanche.
Eh ben, merci. À bientôt. Au plaisir.
Au revoir.
Merci. Au revoir.
Voilà, on va enchaîner avec la moto 2. Bah là, il n'y a plus de secret. Il n'y a pas de suspense.
Je veux dire. Il y en a pour la troisième place.
Oui, mais là, pour les deux premiers, voilà.
Les deux premiers, c'est fait.
Ça, c'est fait. Hein, de toute façon, voilà. Et là, Balou, bah, tu nous dis que autant la moto GP, ça devient un show télévisé. Et que là, en moto 2, au contraire, c'est encore les performances
des pilotes. Tout à fait. Ouais, hein
le problème, c'est que les motos.
Bah, ils ont tous la même moto déjà.
Oui, ils ont tous. On rappelle que c'est moteur Triumph. Hein.
Même moteur.
Hein c'est le même moteur surtout. Mmh. Après, chacun fait comme il veut de son moteur. Mais
oui. Après, c'est les parties cycles.
Voilà, oui. Les parties cycles.
Trois châssis.
Différentes.
Trois châssis. Mmh.
Trois châssis.
Alors, mais la troisième place, bah, ils sont cinq à pouvoir y prétendre. Donc,
attends, on n'a pas dit qui a gagné le championnat.
Oui, alors bah, c'est Ogura qui va monter en moto Grand Prix.
Et c'est un
Japonais.
Et ça fait longtemps que le Japonais n'a pas eu de champion du monde.
C'est clair.
Surtout qu'il a raté quand même deux fois championnat. Moto 3, il était deuxième. Et moto 2, il a été deuxième l'année dernière. Ouais.
Quand il a perdu le championnat, c'était un excès de confiance. Il a absolument voulu être devant, alors qu'il aurait pu très bien être champion du monde en étant la deuxième place. Il a chuté pour pouvoir être premier. C'est atteigneux, au gros, c'est clair. Ouais. Après, t'as Canet, qui est deuxième. Canet, ça fait un moment qu'il est là, mais lui aussi s'atteigne, mais souvent par terre aussi.
Oui.
Ça, c'est son plus gros problème, à mon avis.
Le plus gros problème, surtout, c'était d'autres qui se sont plantés, blessés, tout ça, et qu'ils ont été supprimés. Enfin, ils ont raté leur championnat à cause de ça.
Parce qu'il y a eu plusieurs leaders dans le championnat.
Oui, tout à fait.
Il y a eu d'abord Alonso Lopez, après Aaron Canet.
Il y a eu Garcia.
Joe Roberts.
Joe Roberts
et Sergio Garcia, oui, c'est vrai.
Garcia, le rookie. Ouais, Garcia, tout le monde se dit.
Incroyable.
Ouais. Le rookie Garcia, enfin le rookie.
Il s'est effondré.
Rookie d'un an, quoi.
Il s'est effondré après, oui.
Il a su qu'il partirait pas, je sais plus, il pensait partir en moto Grand Prix, il a su qu'il aurait pas. Donc je pense que ça lui a mis une claque. Bon, maintenant, il fait encore partie de la liste. Hein.
Ouais.
Il est troisième à 6 points de Aldeguer et de Gonzalez qui sont ex-aequo. Donc quand même, 6 points, là, ça peut aller très bien.
Aldeguer et Gonzalez, non, ils ont 175 points tous les deux, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Et après, t'as Lopez qui est derrière à 10 points et t'as Vietti qui est derrière à 16 points. Mais... Vietti, c'est clair, il y a vraiment du...
Il y a un gros problème en Grand Prix. Simplement, il y a beaucoup d'Espagnols, quand tu regardes bien.
Tu penses que c'est un problème qu'il y a beaucoup d'Espagnols ?
Beaucoup d'Espagnols. Non, mais
moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'Espagnols et beaucoup d'Italiens.
Le championnat, quand tu regardes bien, ils sont quand même vraiment favorisés.
Bah, j'ai lu des articles. Avant, il y avait les Américains. C'était les Américains, hein, quand c'était 502 temps, hein, qui dominaient la planète.
Maintenant, ils ont leur petit championnat chez eux.
Ouais, voilà. Des Anglais, il n'y en a plus beaucoup aussi en Grand Prix.
Non, c'est vrai.
Non, il n'y en a plus. Non, c'est vrai. Et il y avait le Belge aussi en moto 2, la Baltus. L'an dernier, on voyait que c'était un mec qui montait. Là.
Ouais. Ah oui, Baltus, oui.
Cru, mais bon. Ouais. Il est toujours. Il peut être très très bon sur certains trucs et puis d'un seul coup.
Il a changé de moto. Là. Il est parti chez Fantic là, parce qu'il avait une moto, ça lui convenait pas, son équipe, il a dit.
Ouais,
il essaie de faire un nouveau challenge. Mais oui, pendant un moment, on a cru qu'il allait s'épanouir, et puis finalement, non. Puis avant, on s'est bien planté, c'était pour Aldeguer.
Aldeguer, tout à fait. Ouais.
Parce que l'an dernier, il a fait une fin de saison tellement exceptionnelle, on s'est dit, il va enchaîner pareil.
Il va enchaîner,
Et puis non. Il a gagné trois Grands Prix, je crois.
Ouais.
C'est pas si mal, mais c'est pas ce qu'on attendait de lui.
Il va être quand même en moto Grand Prix.
Il a eu du bol. Parce qu'en fait, ça s'est signé très tôt.
Il avait gagné les dernières courses.
Il venait de gagner deux courses en suivant. Donc ils se sont dit, bon, il est parti. Alors après, il a plus rien foutu pendant un moment. Et donc, il a eu beaucoup de choses.
Rappelle-toi, Aldeguer, il a été très très troublé par l'arrivée de Lopez dans l'année encore précédente. Et à partir de que Lopez était là, les résultats de Lopez l'ont très troublé. Il a mis un moment à se remettre. C'est comme quoi la psychologie va très très fort.
Énorme, c'est déterminant.
Alors, il y en a un qui bon, il est 15e, c'est Moreira. Moreira, moi je crois que c'est un type qui va réussir à bien bien monter le temps qu'il s'y fasse. Il y a toujours mis un an pour. Mais je pense qu'on pourra compter sur lui l'année prochaine. Je sais pas ce que.
Bon. Bouf.
Oui. Ouais.
C'est ton avis, apparemment.
C'est mon avis.
Bon, il faut 2,6 millions pour une saison en Moto 2. Ou intime. Vous imaginez, hein, le pognon qu'il faut, le pognon qu'il faut aller chercher.
Surtout qu'en ce moment, c'est plutôt en baisse. C'est plutôt beaucoup.
Bah oui. Et il n'y a toujours pas un seul Français en moto 3 et en moto 2.
Non, il n'y a pas de relève. Non.
C'est grave. Hein.
Ouais, tout à fait.
En sachant que Zarco, ça devient le plus vieux pilote du plateau MotoGP. Donc je pense qu'il n'y en a plus pour longtemps.
Surtout que les filiales en France, ils vont plus vers le Superbike.
Quand on regarde bien, tout est. Oui, il y a deux pilotes français en super sport et puis
super
super
bike. Voilà. On avait un vivier et c'est fini.
Ouais.
On va retrouver dans les années noires de la moto française. Hein.
C'est possible. Ouais. Voilà. C'est tout ce qu'on avait à dire là sur la moto.
Il y a des
Chantreux qui a réussi à avoir une moto GP.
Tout à fait, ça c'est important.
Parce que lui, il est asiatique et les asiatiques,
voilà,
il faut,
c'est ça.
Les grands prix, c'est important qu'ils aient un représentant en Indonésie, de Thaïlande et tous ces trucs-là.
Ils espèrent qu'un grand prix de l'Inde aussi.
Chantreux, il est 12e au classement pour l'instant.
C'est étonnant qu'il ait le droit à une moto GP. Hein, mais c'est parce qu'il est asiatique, je crois.
Il a la chance d'être asiatique.
Il y a quand même des choses bizarres, quand même. Il y a des mecs qui récupèrent des motos GP alors qu'ils ne sont pas vraiment.
Essayent de mettre. C'est un championnat du monde, c'est pas un championnat espagnol. Quoi,
voilà, c'est ça. C'est pas...
Donc ils essayent de mettre des pilotes.
De toutes les nations.
De toutes les nations. Voilà, il y a un Malaisien, il y a un Indonésien.
Même si t'es un naze.
Quoi? Non, à mon avis, faut quand même. C'est pas des nazes.
Non, je dis pas ça, mais bon, même si t'es pas.
Chantreux, faut qu'il pleuve.
Oui,
il chante bien.
Là, c'est un des mecs qui roule sous la bousson.
Ah, lui, c'est incroyable. Je me souviens d'une.
Oui.
D'une course
impressionnant.
Sous la pluie.
Impressionnant.
Il était seul au monde.
Impressionnant.
Tous les autres, ils étaient à l'arrêt et lui, il se promenait comme si de rien n'était.
Ouais, c'est ça.
C'est incroyable.
C'est vrai.
Mais le problème, c'est leurs championnats. Il y a des championnats qui sont en scooter et ils roulent sous la pluie.
D'accord.
Donc, ils ont des championnats en scooter.
Ah bah oui, il y a gagné le
ça fait apprendre. Il y a quand même une chose qui est importante pour moi, à mes yeux, c'est qu'on se rend compte que les gars qui montent du Moto 3 au Moto 2, ça rame quand même au moins pendant un an. Ils ont du mal d'y arriver. Pour preuve, le premier rookie, il est 15e, c'est Moreira, et le deuxième, c'est Honshu, il est 20e. Tous les autres sont encore derrière. C'est quand même impressionnant, quoi.
Oui.
Et le Moto 2 et le Moto 2 Grand Prix, la marche apparaît moins haute qu'avant. Voilà.
Ah oui, d'accord. Et alors, on va passer un peu de musique.
Ouais.
Parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps.
Bien sûr.
Et on voudrait parler de
Moto 3.
De la Moto 3. Hein.
Bah oui.
Avec
où là, ça bagarre.
Oh bah là, il y a le premier, là. Il y a 160 points, écrasé la concurrence. Là.
C'est clair.
Voilà, tout de suite après le morceau de musique. Oui. Tout de suite. We'll be right back. Oh, ça fait du bien.
Ouais, ça fait du bien.
Ouais. C'est la musique. Ouais.
Et l'époque où on allait sur les circuits. Hein.
Voilà, tout à fait.
On allait à Spa-Francorchamps.
Ouais.
Hein,
Spa et autres.
Ouais. Et autres. Hein, on allait où? À Seine aussi.
À Seine.
Allez, remets un petit coup de louche.
Ouais.
Tu peux le mettre? Oh là là. Oh, ça chauffe. Oh, d'accord. Bon, allez, on se dépêche parce qu'on va parler Moto 3.
Alors Moto 3, y a Alonso qui est champion du monde depuis déjà un bon moment, mais avec un boulevard d'avance, il a écrasé la concurrence. Et pourtant, quand on le regarde, c'est un petit garçon bien sage, tout poli.
Ça veut rien dire.
Il n'a pas du tout l'air d'un tête d'un tueur. Et il a vraiment 160 points d'avance, 13 victoires sur 20. C'est impressionnant.
C'est pas vraiment un tueur, j'ai l'impression qu'il sait bien calculer les choses.
On a
l'impression qu'il a déjà vécu tout ça avant.
Ouais.
C'est rigolo, mais.
Il n'a que 18 ans en plus.
Il n'a que 18 ans.
Ouais. Non, c'est un gamin.
Ouais, pour moi, ça me fait penser à Acosta, mais en plus. Tu vois, c'est,
en plus. Ouais. Ouais,
tout à fait. Il y a
quelque chose de plus que les autres. Alors. Ouais. Est-ce qu'il va marcher aussi bien en Moto 2?
C'est encore autre chose,
On ne sait pas.
Ça fait parler parce qu'il a cassé le record de Rossi.
Tout à fait.
Oui. Parce que Rossi, il avait gagné la première. Il avait aussi gagné en Moto 3.
11 Grands Prix.
11 Grands Prix. Et là, il s'est fait avoir 13 victoires. Ça n'a jamais été fait.
Comme je disais, plus il y a de Grands Prix, plus tu as de risque de
gagner. Oui, tu as raison.
Plus,
il y a beaucoup plus de Grands Prix maintenant. Donc c'est plus facile.
Déjà,
tu as raison.
Je vais faire une règle de 3, mais je n'ai pas encore fait.
Si tu domines vraiment les choses, franchement, tu peux toujours gagner plus.
Maintenant, tout n'est pas gagné. Il y a encore du suspense parce qu'il y a quand même le deuxième et le troisième, ils sont ex aequo. C'est Olgado et Végère. Et là, il y a encore du suspense. Ortolo, il y a 19 points. C'est vrai que les deux se shootent pour que Ortolo soit deuxième.
Alors c'est pareil. La course est terminée parce qu'elle est presque midi 25 là, presque.
Oui, on est samedi.
Mais nous, on est samedi. On enregistre ces émissions samedi. Donc on peut pas savoir. Donc on a toujours un doute. Il reste un doute.
Et j'ai réécouté l'ancienne émission qu'on avait fait au début de la saison. Et Claude, il avait raison. Il a tiercé en Moto 3.
Non.
Si, il avait Olgado, Alonso et Werner. Et donc.
C'est les trois.
Il s'est trompé dans les deux premiers.
Dans le désordre,
On va devoir te faire un chèque alors, Claude.
Par contre, il était à l'ouest complètement en MotoGP.
En MotoGP,
MotoGP, c'était à l'ouest complètement.
Qu'est-ce qu'il y avait dit en MotoGP?
Binder. Bagnaia, deuxième. Donc.
Oui, c'est vrai, qu'est-ce qui t'a pris, là, Claude?
Je voyais bien.
T'étais pas bien,
non? En mieux, c'est vrai.
Mais c'était forcément Bagnaia ou Martin, c'était sûr.
Marquez,
donc vous aviez. Bien sûr, on est en Moto 3. T'as bien fait de recentrer le débat.
On dérape, systématiquement on dérape. Donc il faut quand même savoir que.
On se dépêche.
Il y a quand même des rookies. Le premier rookie, c'est Munoz, il est cinquième. Et moi, il y en a un qui m'a impressionné, c'est Picaras, qui vient du Moto 3 Junior et qui vraiment a marqué. Il a même gagné un Grand Prix pour sa première saison. C'est quand même, c'est un mec qui, à mon avis, il faudra compter dessus à l'avenir. Voilà.
Lunetta, je dirais que c'est.
Lunetta, par exemple,
on peut voir aussi.
Furusato, c'est un japonais qui marche bien aussi. Il s'est fait shooter une paire de fois, mais un peu bouillant, mais. Furusato, moi j'y crois aussi.
Et de la même famille, il y a Fernandez.
Adrien Fernandez. Le frère de Raoul.
Qui monte petit à petit, un peu mieux chaque fois, donc c'est bien, ça peut être
Après, t'as Kelso, les Australiens, pas mal non plus. Kelso, Rulston, qui est chez Tech 3, qui marche bien.
Ils font des bons trucs, mais pas tout le temps. Donc
ils sont tout nouveaux.
C'est pas régulier.
Très bien. C'est fini, Malou, pour le.
Pour le Moto 3, tout à fait.
Bon, d'accord.
Ça c'est fini d'ailleurs, même maintenant c'est fini. La course est terminée. C'était la dernière de la saison.
KTM a dominé complètement ces Moto 3. Ouais. Et Honda revient petit à petit. Ils ont un nouveau moteur, donc ça marche mieux. Enfin, ils ont cassé la première fois qu'ils l'ont sorti. Bon. Ils ont cassé tous les deux. Mais bon.
L'année prochaine, 22 Grands Prix encore. C'est beaucoup, Surtout qu'ils se prennent des G à l'accélération, à la décélération.
Là, on parle du MotoGP.
En gros, quoi. Même pour le.
Pour MotoGP, ça fait 44 courses.
Ça fait beaucoup. Il y a des pilotes qui se plaignent, quand même.
J'en mettrais bien une cinquantaine. Comme ça, à Noël, on aurait un bon Grand Prix aussi.
parce que ça va quand même de mars à novembre maintenant.
La nouveauté, c'est que ça commence en Thaïlande, puis au Qatar.
Après, c'est pas la mousson là-bas. Je pense qu'il y a peut-être que quelques GP qui vont tomber avec les.
Ils veulent peut-être avantager Chantran.
Sous la flotte, c'est possible. C'est possible.
Allez, pour ceux qui veulent prendre leur ticket, déjà, le Grand Prix de France, ce sera bah, forcément où ?
Au Mans, hein, comme
bah, d'habitude. Au Mans,
au mois de mai.
Et ce sera le 11 mai.
Ouais, 11 mai.
Voilà. Et après, vous pouvez toujours aller à Silverstone, hein, c'est pas très loin. Nous, du Nord.
Il
y a
aussi Assen.
Il y a Assen aussi.
Par ici, c'est pas loin.
Assen, c'est le 29 juin. Voilà.
À part ça,
on peut y aller le championnat féminin, on peut en parler un petit peu.
Oui, féminin, oui, oui. Et il y a aussi la moto électrique aussi.
La moto électrique.
On va demander des infos à Nico, tiens.
À Nico.
Allez, un coup de moto électrique.
Ah, la moto électrique. Ça fait ça, effectivement. J'ai regardé un Grand Prix. Non, mais ça dure pas longtemps, Marc, hein, parce que la pile, elle se décharge vite. Alors voilà. Mais ça fait ça, ça fait.
Et c'est une Ducati, hein.
Et c'est des... alors, et elles sont toutes Ducati, les motos électriques.
Non, c'est tout Ducati.
Bon, voilà, la mission se termine.
Bon, bah, championnat féminin, on a quand même deux Françaises, dont une qui est dixième. Voilà. Bon, c'est quand même intéressant à savoir. Voilà, Ongaro, je ne sais plus comment elle s'appelle. voilà.
Oui.
Talan, j'en ai cherché, c'est trop tard. Émilie Bondy, deuxième. Et Ornella Ongaro.
Ah, Ongaro, oui.
Voilà.
Voilà, ben, Claude, merci d'être venu là.
Pas de souci.
Pour cette dernière de ce championnat du monde de vitesse là, 2024.
Oui.
Hein, merci Nico. Hein. Refais-nous un petit coup de bisous.
Moi j'espère Martine, j'en sais rien, mais j'espère Martine.
Oui, moi aussi.
Ouais.
Moi aussi
Balou, hein.
Idem.
Ouais.
Qu'on a interviewé, hein, tu te souviens, l'ami?
Ah, on a fait l'interview
pendant le Covid.
Pendant le Covid, oui. Et on a la photo, on a les preuves. Et on a le fichier audio.
Ouais.
Hein.
Ouais,
voilà, voilà, passez un bon dimanche. Ben, on vous rappelle que tout à l'heure, c'est 14h hein, la course. Hein. Voilà, s'il reste du suspense encore à avoir, donc c'est 14h. Voilà.
Bon dimanche à tous.
Salut.
Salut.
Bon dimanche.